il était officier dans un bateau de guerre et il est devenu éventuellement son propre capitaine dans son propre navire marchand d'esclaves. Au 18e siècle, il y avait beaucoup l'esclavage et beaucoup transitaient avec l'esclavage. Ils transitaient vers les États-Unis où il y en avait beaucoup en Angleterre aussi. Et John Newton était un passeur d'esclaves. Il était capitaine d'un marchand, d'esclaves et il avait un navire pour ça. Et un jour, en 1748, le 10 mai pour être plus précis, il est aux prises avec une violente tempête et il s'écrie « Seigneur, sauve-moi, aie pitié de moi ». Et le Seigneur le sauve. Il sauve son bateau aussi. Et par conséquent, John Newton est transformé. La grâce infinie de Dieu le transforme. Il abandonne le commerce d'esclaves et il devient un prédicateur de l'Évangile. Et semaine après semaine, il va se mettre à écrire un hymne au Seigneur. Et un de ces hymnes-là, c'est probablement le mieux connu, c'est « Amazing Grace », où il raconte le fait qu'il a été sauvé par grâce. « Grâce infinie » est un de ces chants qu'il a écrit entre 1760 et 1770. Newton a œuvré beaucoup en Angleterre. Il a influencé un membre du Parlement d'Angleterre, William Wilberforce, qui est devenu un des leaders du mouvement d'abolition de l'esclavage. Il y a quelques semaines, j'ai été au Vidéotron et j'ai emprunté un film, une vidéo qui s'appelle « Grâce au ciel », en anglais « Amazing Grace ». Et c'est justement l'histoire de William Wilberforce, comment l'abolition de l'esclavage en Angleterre. Si ça vous tente de regarder ça, ça s'appelle « Grâce au ciel » en français, en anglais « Amazing Grace ». Mais ça raconte justement cette histoire de William Wilberforce. Et Newton, dans cette histoire-là aussi, il continue à prêcher, il devient aveugle, mais il prêche jusqu'à la fin de ses jours. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, il va dire. J'étais perdu, j'étais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Et il va dire après ça, ma vie a complètement changé. Et en réalité, ce matin, à travers ce chant-là, j'aimerais qu'on regarde Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10. Parce que si le chant « Amazing Grace » ou « Grâce infinie » est le témoignage d'un homme, John Newton, dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10, on a aussi un témoignage similaire. Celui de Paul, celui des Éphésiens. Et j'ose croire le nôtre, j'ose croire le mien. Et comme ce matin, j'aimerais que nous regardions encore ce beau témoignage de salut, l'explication du salut aux Éphésiens, et selon la grâce infinie de Dieu. Voyez-vous, on a regardé dans Éphésiens chapitre 1, comment on devait bénir Dieu pour toutes les bénédictions spirituelles que Dieu nous avait données dans les lieux célestes. Et après ça, il nous avait dit qu'il avait manifesté toute sa puissance à travers Jésus. Comment dans la personne de Jésus, la puissance de l'Évangile qui est en nous, Jésus, ça l'a ressuscité et ça l'a exalté à la droite de la toute-puissance de Dieu, au-dessus de tout nom qu'on pouvait nommer. Et maintenant, Paul, dans Éphésiens chapitre 2, les 10 premiers versets, il va appliquer cette puissance-là, cette puissance infinie de Dieu à travers nos vies. Il va la canaliser à l'intérieur de l'infinie grandeur de sa grâce. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est la même puissance qui fait naître de nouveau, qui donne le salut par grâce à chaque individu. Comme j'aimerais que ce soit notre témoignage ce matin en lisant ça, j'aimerais que vous puissiez sortir et que vous disiez, comme c'est écrit dans le texte, « J'étais mort, mais Dieu m'a donné la vie. Et maintenant, j'ai un sens pour avancer. » C'est un des textes les plus précieux de la Bible et j'aimerais qu'on puisse l'examiner ce matin pour ressortir avec une nouvelle joie de réaliser la puissance et la grâce de Dieu dans notre vie qui m'a sauvé et qui continue à nous transformer. Vous avez trouvé Éphésiens 2? On va prier d'abord et après ça, on va lire le texte. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ce beau texte ce matin que l'on va regarder. comment nous étions morts dans nos péchés et comment, Seigneur, tu es intervenu avec la puissance infinie de ta grâce en nous sortant du bourbier du péché dans lequel on se vautrait pour faire de nous, nous élever et faire de nous des fils, des enfants de Dieu. Quelle grâce infinie, quelle amazing grace. Alors Seigneur, on veut te prier que tu nous parles à nos cœurs à travers ce texte ce matin. Renouvelle notre joie d'être sauvés. Rappelle-nous d'où tu nous as sortis pour que nous puissions célébrer tes louanges. Et nous te prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le témoignage de Paul, il était perdu, il a été sauvé. Il nous dit, non seulement Paul était perdu, il dit, j'étais perdu, mais vous étiez perdu aussi. Vous étiez mort avant l'intervention de la grâce de Dieu dans ma vie. J'étais perdu. J'étais en direction de la condamnation éternelle, en direction de l'enfer éternel. Et en réalité, ce n'était pas juste moi. C'est tout être humain. Qu'il soit juif, qu'il soit païen, qu'ils soient canadiens, québécois, francophones, anglophones, nous étions tous perdus. Et Paul rappelle ça aux Éphésiens. Il leur dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts devant Dieu. Vous étiez morts spirituellement. Vous étiez morts, vous étiez déconnectés de Dieu. Vous étiez séparés de lui par vos péchés. Tout être humain a été créé à l'image de Dieu, a été créé pour être en communion avec Dieu, mais le péché crée une séparation. Le péché nous a séparés de Dieu. Et par conséquent, Dieu n'habite pas en nous par nature. Trop souvent, j'entends les gens qui disent « on a toute une petite étincelle de Dieu, il faut la découvrir à l'intérieur ». Non, on a besoin que Dieu la place, cette étincelle-là. On a besoin que Dieu vienne habiter en nous. Par nature, on l'a pu, cette étincelle-là. On était séparés de Dieu. On est devenus des pécheurs par nature, par choix, et nous sommes en un état de séparation de Dieu, en séparation de sa vie. La Bible dit « on est privés de la présence glorieuse de Dieu. » Romains 3, 23, il dit, « Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu, sont privés de la gloire de Dieu, de la présence glorieuse de Dieu. » Et parce qu'on est des pécheurs par nature et par choix, on n'a pas de reconnaissance envers Dieu, on ne prend pas d'engagement envers Dieu, mais on est plutôt attaché au péché, attaché aux transgressions. Vous étiez morts par vos offenses. Non seulement on était morts, mais il dit au verset 2, on était des rebelles aussi. On marchait autrefois selon le train de ce monde, puis on était des fils de la rébellion. Non seulement on était morts, séparés, déconnectés de Dieu, mais dans notre marche, dans notre conduite, on confirmait qu'on était dans une condition de pécheur. On était rebelles à Dieu. On marchait autrefois selon le train du prince de ce monde. On se comportait volontairement selon les valeurs du monde et selon le prince de ce monde qui est Satan qui conduit le monde, selon la mode du monde, selon cette mode qui est attachée à l'adversaire qui est en rébellion contre Dieu. Et Paul il dit, vous les Éphésiens, vous les païens, vous étiez comme ça. Mais il dit au verset 3, nous aussi on n'était pas mieux. Nous aussi les Grecs, les Juifs plutôt, on n'était pas mieux. Qu'ils soient païens, qu'ils soient juifs, on était tous rebelles devant Dieu. Nous tous, on suivait, il dit, les instincts, nos convoitises, nos passions de la nature pécheresse. Nous aussi, on suivait les inclinaisons de notre cœur qui étaient contrôlées par le prince de ce monde de ténèbres. On était des captifs du péché. On était rebelles à Dieu. On était esclaves de Satan. Croyez-vous ça? Que tant que Christ n'est pas venu entrer dans votre vie, vous êtes séparés de Dieu, vous êtes rebelles envers Dieu et en réalité, vous suivez les valeurs de ce monde qui sont contrôlées par un autre être très puissant qui est l'adversaire, qui est Satan. Et on est entraîné dans le royaume des ténèbres, avec les valeurs de ce royaume de ténèbres. J'étais mort, j'étais rebelle. Et Paul va dire à la fin du verset 3, on était comme les autres. J'étais un enfant de colère, comme les autres. On était par nature des enfants de colère, des fils de la rébellion. On était par nature, par choix, condamnés devant Dieu. Des enfants de colère qui méritaient la colère de Dieu, qui étaient sous la condamnation de Dieu. La Bible a dit, celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tant que la grâce de Dieu ne s'est pas manifestée dans ma vie, je suis séparé de Dieu, je suis sous sa colère, sous sa condamnation. Et en réalité, croyant, on ne peut pas vraiment apprécier toute la grâce de Dieu tant qu'on n'a pas réalisé la mesure de la profondeur de notre péché. Tant qu'on n'a pas réalisé et reconnu la profondeur du bourbier duquel Dieu nous a sortis, on ne peut pas apprécier pleinement la grâce de Dieu. Est-ce que vous étiez conscient que vous étiez séparé de Dieu, que vous étiez esclave dans le péché, que vous ne pouviez pas vous en sortir par vous-même? Mais Dieu est intervenu. Et il a placé sa grâce sur vous. On a besoin, chacun d'entre nous, de réaliser d'où le Seigneur nous a sortis. Il ne nous a pas sauvés parce qu'on était plus fins que les autres. Il ne nous a pas sauvés parce qu'il y avait quelque chose de beau en nous. Il nous a sauvés par sa grâce infinie, par sa miséricorde. Et on a besoin de s'en rappeler. Et on a besoin de s'en rappeler quand on partage aussi l'Évangile à ceux qui n'ont pas connu Jésus encore. On a besoin de se rappeler que Dieu nous a sortis de là. On est souvent tellement facile à condamner les gens qui n'ont pas le Seigneur. Et on oublie qu'on était là avant. Paul dit, nous étions de leur nombre. Nous étions, comme les autres, des enfants de colère. Morts devant Dieu, séparés. C'est noir, hein? Ça ne ressemble pas d'être une bonne nouvelle. D'entendre que par nature, je suis séparé de Dieu, j'ai mon point, et puis Dieu, lui, il est prêt à réagir par sa colère, sa condamnation. Mais le verset 4 commence tellement de façon merveilleuse. Il y a quelque chose qui a changé. Mais Dieu, on peut aller à l'autre, mais Dieu m'a retrouvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, mais Dieu, voilà la différence, mais Dieu m'a retrouvé, mais Dieu a placé la lumière au sein de mes ténèbres et ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Dieu m'a retrouvé. Il nous dit au verset 7, ce Dieu-là, il nous dit, qui est riche en miséricorde, qui a un grand amour et qui nous s'en est servi, nous a aimés. Lui qui était riche en miséricorde, au verset 7, il dit, pour montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. L'impression que c'est là qu'on a eu grâce infinie. C'est l'infinie richesse de sa grâce. Qu'est-ce qui a motivé Dieu à me changer, à me sauver, à me transformer? Bien, il nous est mentionné dans le verset 4. C'est son amour, c'est sa miséricorde. Verset 7, c'est sa bonté. Il n'y a rien trouvé en nous-mêmes d'excitant. Mais Dieu qui est saint, le Dieu de sainteté, le Dieu de colère face au péché, c'est le même Dieu qui est plein de miséricorde, d'amour et de bonté envers le pécheur. C'est le Dieu de l'infinie richesse de sa grâce à notre égard. Et ce Dieu-là, la Bible dit, qui est riche en miséricorde, qui a un grand amour, qui est infiniment riche en grâce, il est descendu vers nous. Et de aveugle, il nous a donné la vue. De perdu, il nous a sauvés. Il nous a retrouvés. Il nous a recouvré la vue. Quand John Newton se rappelle son soir de conversion, il se rappelle d'où il sortait. Il était ce marchand d'esclaves qui vendait des gens d'un continent à l'autre, qui les transportait à travers la mer puis qui en perdait des dizaines en bateau à cause des conditions qui étaient là. Il se rappelait que ces gens-là étaient enchaînés, puis qu'ils étaient vendus. Et à un moment donné, il réalisait que c'était lui, il était la même chose devant Dieu. Il était enchaîné par l'adversaire, il était vendu au péché. Et ces esclaves-là qui passaient, il n'y avait aucune espérance de pouvoir s'en sortir. Et il était, à un moment donné, devant Dieu, il s'est réalisé qu'il était exactement de la même manière. Il était sous la condamnation de Dieu. Et ce soir-là, quand son bateau était avec la tempête et qu'il était pour mourir, il a crié Dieu. Il n'a pas dit, regarde, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de bon, comment j'ai fait des belles choses pour toi. Il n'y avait rien sur son record de positif. Mais Dieu l'a entendu. Mais Dieu l'a retrouvé. Dieu l'a sauvé. Dieu a été le pont entre le désespoir et le salut. Pour John Newton, pour moi, pour les Éphésiens, je prie que ce soit la même chose pour vous. Il était le pont entre la mort à la vie, entre la colère de Dieu puis la gloire de Dieu, entre le fait d'être ennemi de Dieu, il a fait de nous ses enfants. Quelle motivation! Il a tout trouvé ça dans sa miséricorde à lui, dans son amour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous dit qu'il a fait trois choses. Il nous a régénérés. Il nous a ressuscités. Puis il nous a assis ensemble. Il nous a rendus vivants. Nous qui étions morts, il nous a rendus vivants, il nous a régénérés. Il nous a communiqué une nature qu'on n'avait pas. Il nous a communiqué une nouvelle nature. Il nous a communiqué sa vie à lui. Sur la base de ce que Jésus avait fait. Sur la base de la rédemption qui est en Jésus. Et on est passé de enfants de colère, de fils de la rébellion, à des enfants de Dieu. Ça, c'est ce que l'Évangile offre. L'Évangile offre la grâce, offre par grâce la vie aux morts, la position de fils à des rebelles, la nature divine à des personnes qui ont seulement une nature pécheresse et qui méritent la colère du ciel. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et la Bible a dit que pour chacun d'entre nous, c'est obligatoire. Il faut le faire. On a lu tantôt Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Mais juste avant, Jésus parlait à un homme qui s'appelait Nicodème. Puis il disait, « Si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Étonne-toi pas que je t'ai dit, « Il faut que tu naisses de nouveau. » Il faut que tu reçoives la nature divine en toi parce que tu ne l'as pas. Il nous a rendus à la vie. Il nous a régénérés. Il nous a donné sa nature. Et en nous donnant sa nature, il nous a dit qu'il nous a ressuscité. Il nous a changé de sphère. On était dans la sphère de la condamnation, de la mort. Et il nous a transférés dans une autre sphère, dans la sphère du ciel, dans la sphère de la présence de Dieu, dans la sphère de la vie. Il a changé notre sphère de vie et d'activité. Il nous a placés en Christ. Et maintenant, nous possédons la vie de Jésus ressuscité. Et la Bible a dit même que Jésus ressuscité est notre vie. Tournez un peu plus loin, si vous avez votre Bible, à Colossiens chapitre 3. Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Colossiens chapitre 3. Il dit au verset 1 de Colossiens 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ... » Là, il ne parlait pas des morts qui étaient rendus au ciel, là. Il parlait des gens qui étaient encore sur la terre, mais qui avaient changé de sphère, qui avaient été placés en Jésus-Christ. Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, dans la gloire. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Vous avez été ressuscité. Et en réalité, vous avez été assis avec lui. Vous êtes devenus maintenant des enfants d'adoption. Vous êtes assis en présence de Dieu. Vous jouissez dès aujourd'hui des dons du ciel, du don de son esprit. Du don de la communion avec Dieu, du partageant déjà sa gloire. Attachez-vous alors aux choses d'en haut. J'ai souvent l'image dans ma tête d'une chenille. Une chenille qui est accrochée à la terre, qui grimpe dans l'écorce, qui monte dans les branches, puis qui mange des feuilles, qui est attachée à la terre, puis qui mange des feuilles. Ça peut pas aller plus haut, elle est prise là, mais à un moment donné, elle est transformée. À un moment donné, elle se place dans son cocon, puis à un moment donné, cette chenille-là sort, et soudainement, elle mange plus de feuilles. Soudainement, elle est plus attachée aux choses de la terre, elle commence à voler. Elle commence à butiner de fleur en fleur. Sa vie a été transformée, métamorphosée. C'est ce que Dieu nous dit maintenant. Dans son amour, moi qui étais mort, perdu, rebelle, il m'a changé de sphère. Il m'a placé en Christ. Il m'a sorti de la boîte, du bourbier dans lequel j'étais, puis il m'a placé en présence de Dieu maintenant. Il a placé son esprit en nous. Puis il dit maintenant, ben continue pas à goûter puis à chercher les choses de la terre. Cherche les choses, la puissance, tout ce que Dieu te donne. Céleste. Parce que t'es plus chenille, t'es papillon. T'es attaché aux choses du ciel. Et pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi Dieu, dans son amour, m'a régénéré, ressuscité, me placé dans les lieux célestes en Christ? Ben pour que je vive pour lui. Encore une fois, Éphésiens 2, verset 7. « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. » Pourquoi est-ce qu'il nous a sauvés? Pour montrer sa grâce. Dieu voudrait nous montrer au monde. Dieu voudrait que les gens qui vous voient, qui ne sont pas des croyants, ils voient Dieu en vous. Ils voient sa grâce. Ils voient qu'est-ce que Dieu a fait avec une personne comme vous. Montrer au monde, puis montrer dans l'éternité les trophées de sa grâce. C'est ce que nous sommes. On est sauvés maintenant pour célébrer Dieu. Parce que, comme on a vu la semaine dernière, nous sommes son héritage. Quel est l'héritage de Dieu? Les croyants. Nous sommes son héritage et Dieu voudrait nous montrer un peu partout où est-ce que nous sommes. Regarde qu'est-ce que j'ai fait avec cette personne-là. Regarde comment j'ai transformé René Labbé de ce qu'il était à maintenant un trophée de sa grâce. Ça, c'est ce que Dieu veut faire avec chacune de nos vies. Et il s'engage dans nos vies. Verset 10 du chapitre 2. Nous sommes devenus son ouvrage. Le texte original, il parle de poéma, dont on a tiré le mot poème. Nous sommes son artisanat. Nous sommes sa création. Dieu nous transforme à l'image de Jésus-Christ, mais il nous transforme tout différemment parce qu'il est un artisan qui, dans chacune de nos vies, crée des pièces uniques, des trophées de sa grâce différents. Nous sommes son ouvrage. La grâce de Dieu qui m'a sauvé, c'est la même maintenant qui continue par sa puissance à nous transformer à l'image de Jésus. La puissance divine qui a ressuscité Jésus, c'est la même puissance qui maintenant transforme notre vie. D'œuvre qui était rebelle contre Dieu à de bonnes œuvres qui représentent Dieu, qui l'honore. Dieu les a préparés d'avance pour nous, pour montrer tout son art à travers notre vie, pour montrer son poème, pour montrer sa sagesse. Dans le français courant, ça mentionne, il a préparé d'avance notre chemin afin que nous n'ayons qu'à y marcher. Nous qui marchions avant dans le péché, Dieu maintenant nous a changé de sphère puis a déjà préparé le chemin qu'on ait juste à y marcher. Puis qu'en marchant là-dedans, on manifeste la puissance de sa grâce dans notre vie. Oh, c'est merveilleux. Dieu m'a, grâce infinie de Dieu, il m'a complètement changé. Pour que maintenant, jusque dans l'éternité, je puisse célébrer sa grâce. Ça, c'est son objectif. C'est le troisième couplet qu'on va chanter. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, on va pouvoir, comme au commencement, lui offrir nos images. Pourquoi Dieu m'a sauvé? Pour que je me mette à célébrer maintenant, que je célèbre ses louanges. Grâce infinie de Dieu. Mais il me dit, par exemple, que toute cette puissance-là, toute cette grâce infinie de Dieu, elle m'est disponible par un seul moyen. Lequel? La foi. Éphésiens 2:8. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Un salut complet, un salut gratuit, un salut par grâce, mais un salut qui doit s'approprier, un salut qui doit se recevoir. Il est entièrement par grâce, mais il se reçoit humblement par la foi. Et la foi, c'est la simple main du cœur qui reçoit humblement l'offre de salut de Dieu. Le salut, c'est un don de Dieu. Mais ce don-là, il nous est présenté. Il est comme un cadeau. Il nous est présenté et on a besoin simplement que de le recevoir. Comme nos cadeaux de Noël. Est-ce que vous achetez vos propres cadeaux de Noël? Peut-être, je ne sais pas. En général, c'est d'autres personnes qui vous achètent des cadeaux de Noël. Puis le moment où ils vous les distribuent, ils ne vous demandent rien. Ils ne vous chargent rien, en général. Ils ne vous chargent rien pour avoir le cadeau de Noël. Mais ça demande quelque chose de votre part. Ça demande de le prendre. Ça demande de le recevoir. Puis habituellement, d'être un petit peu avoir de la gratitude. Dire merci. Mais ça, c'est le salut. Le salut, il est précieux. Il manifeste la puissance infinie de Dieu à transformer notre nature, à nous faire ressembler à Christ. Et Dieu nous l'offre comme un cadeau gratuit. Mais j'ai besoin de l'accueillir, de le recevoir comme un cadeau, comme à Noël. Le salut est un don de Dieu qui se reçoit par la foi humaine. La foi, c'est la réponse humaine à l'offre gracieuse de Dieu. Et il nous est clarifié que ce salut-là, il est pas basé sur les œuvres. Il est basé sur Jésus, et on le reçoit par la foi. Il trouve sa source en Dieu, il ne trouve pas sa source dans les hommes. On était morts par nos offenses, par nos péchés. Puis il dit, la grâce, ça va donner gloire à Dieu. Les œuvres, ça donnerait gloire aux hommes, ça glorifierait les hommes. Mais, il dit, c'est pas par les œuvres. Afin que personne se glorifie. La grâce glorifie Dieu. Les œuvres nous donneraient tendance à nous glorifier nous-mêmes. Et Dieu dit que toutes nos œuvres, toute notre justice qu'on pourrait présenter à Dieu est comme un vêtement souillé, la Bible dit dans Ésaïe 64:5. est comme un vêtement souillé, est comme une guenille sale, une guenille qui pue. Ça n'a pas d'attrait pour Dieu. Si le salut s'obtenait par les œuvres, Dieu n'aurait pas eu besoin d'envoyer son Fils. En réalité, Christ serait mort en vain. Parce que s'il y avait un autre moyen que la grâce de Dieu, si les œuvres pouvaient nous donner le salut, Christ serait inutile. Mais non, on a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mais les œuvres ne sauvent pas. Le salut est par la foi seule, sans les œuvres. Mais la vraie foi en Jésus, elle vient jamais seule. Elle est toujours accompagnée de bonnes œuvres préparées par Dieu. Éphésiens 2, 1 à 10 nous montre quelque chose de merveilleux. Pour Paul, pour l'Éphésien, pour John Newton, pour moi, j'espère pour chacun de vous. Je veux vous dire, ce matin, j'étais perdu, mais Dieu m'a retrouvé. Dieu m'a transformé pour que je me mette à vivre à sa gloire. Et ce salut-là, c'est le produit de sa grâce infinie. Et tout ce que j'ai eu à faire, c'était de le recevoir humblement par la foi. Ah oui, je comprends bien que John Newton a écrit « Amazing grace, how sweet the sound ». Comment cette grâce est merveilleuse. Comment c'est un doux refrain à mon cœur. Ça n'a pas été traduit en français, cette notion-là, mais c'est tellement merveilleux la grâce de Dieu. Tellement un refrain doux à mon cœur. Dites-moi ce matin, est-ce que tu te retrouves là-dedans? Est-ce que tu te retrouves dans ce message d'Éphésiens 2 que tu étais mort puis que tu es né de nouveau parce que tu as reçu par grâce le salut de Dieu? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, j'étais perdu, je suis sauvé maintenant? Est-ce que tu as goûté à cette grâce, à cette certitude du salut? Et oui, j'espère que tu peux répondre oui. Alors, je dois dire, est-ce que tu as continué par la suite? Est-ce que ta vie manifeste que tu as été complètement changé? Est-ce que ta vie manifeste que tu es en train de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi? Est-ce que ta vie est en train de célébrer Dieu et ses louanges? Ta vie est-elle un poème de son artisanat, de l'artisanat de Dieu dans ta vie? Grâce infinie de Dieu qui m'a sauvé. Que ça puisse être... Que ça puisse être votre espérance, que ça puisse être votre réalité. Et je vais juste terminer avec ces deux mots-là du verset 4. Mais Dieu, j'étais désespéré et Dieu m'a sauvé. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être sauvé de l'enfer, mais jour après jour, il y a des détresses, il y a des dangers. Et je peux encore dire, mais Dieu, quand les forces me manquent, quand on est au bout du rouleau, quand tout est noir, quand il n'y a plus d'espoir, on peut dire, mais Dieu qui est riche en miséricorde, il est prêt à venir, il est prêt à me lancer cette corde dans ma misère, parce qu'il est riche en bonté, en amour, en grâce, en miséricorde. Grâce infinie de Dieu, mais Dieu y intervient, nous faire passer des ténèbres à la lumière, de l'échec à la victoire, du désespoir à l'espoir. De mort à vivant, de rebelle à serviteur de Dieu, d'esclave du péché à poème de Dieu. Oh, puissions-nous, comme John Newton va nous le dire, célébrer ses louanges. Quand on l'aura fait pendant 1000 ans, on va continuer de le faire dans l'éternité. Célébrer ses louanges. Comme on a célébré ses louanges, et je m'imagine que vous l'avez fait au premier jour de votre conversion. Oh, que notre vie soit l'expression de cette grâce infinie de Dieu qui m'a sauvé, afin que je puisse être transformé et qu'on puisse célébrer ses louanges. Seigneur Dieu, merci pour ce témoignage de Paul, que lui aussi a été sauvé avec les Éphésiens de la même manière, parce qu'il a placé sa foi en Jésus et il a reçu humblement le cadeau de ton salut. Seigneur, ma prière ce matin est pour s'il y a des personnes ici parmi nous ce matin que ce n'est pas leur expérience à eux, qui ne peuvent pas dire du fond de leur cœur, j'étais perdu dans mes péchés, puis Dieu m'a sauvé et m'a transformé. S'il y a des personnes que ce n'est pas leur expérience, Seigneur, je veux te prier que simplement ils puissent considérer ce salut merveilleux que tu offres par grâce, basé sur l'œuvre de Jésus à la croix qui meurt pour nos péchés. Et Seigneur, je veux te prier qu'il ne tarde pas, que dans cette période des fêtes où on s'échange des cadeaux, ils puissent se tourner vers toi et recevoir ce cadeau de la vie éternelle. Et Seigneur, pour nous qui te connaissons, pour nous qui pouvons confesser qu'on était perdus, mais que tu nous as sauvés, on veut te prier, Seigneur, que notre vie manifeste ton œuvre dans notre vie et que nos vies servent à célébrer tes louanges. Tu en es digne. Alors, Seigneur, prends nos vies encore. Manifeste ta puissance à travers elles et donne-nous la grâce de te célébrer aujourd'hui et dans 1000 ans. Puisque nous te demandons ces choses au nom de Jésus pour sa gloire. Amen. Je vais inviter Justin.